talmudique. Pierre-Henri Salfati, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous retrouver cette semaine à propos du premier mot de la Genèse Bereshit. Nous avions évoqué la semaine dernière différentes traductions, les contresens que portent certaines, et nous avions abordé aussi la question du commencement dans le texte biblique en soulignant l'importance du commentaire de Rashi qui ouvrait des perspectives géopolitiques, il faut préciser philologique, souvent laissé sous silence. Rashi, qui s'appuyait sur un maître du Talmud du 3e siècle, Rabbi Yitzhak ben Nafra, nous introduisant de plein pied dans l'univers du Talmud, cette grande œuvre qu'Hemingway, et certains disent Mark Twain, aurait qualifié de classique, c'est-à-dire une œuvre dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu. Ce qui n'est pas votre cas, Pierre-Henri Salfati, car non seulement vous l'avez lu, le Talmud, vous le lisez encore et l'étudiez régulièrement, mais vous lui avez consacré un film documentaire en 2007, intitulé Le Talmud, et un livre en 2015 chez Albin Michel, intitulé Talmud, enquête dans un monde très secret. Et j'aimerais que nous prolongions notre réflexion sur le commencement, mais cette fois-ci non pas dans la Bible, mais dans le Talmud, et peut-être faut-il commencer par le mot lui-même, c'est ce que vous nous avez appris la semaine dernière. Que signifie le mot Talmud, ou pour reprendre votre formule, que veut dire ce mot? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce mot Talmud, Pierre-Henri Salfati?
Effectivement, c'est peut-être intéressant de revenir au texte, à l'amour du texte. Le mot Talmud est enraciné dans le mot Limoud, Lamed, la lettre Lamed, qui veut dire enseigner, et à la fois apprendre. Alors en français, on a cette double contingence, apprendre, ça veut dire apprendre de quelqu'un ou apprendre à quelqu'un. Donc le Talmud est une machinerie très sophistiquée pour apprendre simplement à apprendre. Je dirais que le Talmud est la méthode de la méthode. C'est-à-dire, en fait, les leçons talmudiques dans les yeshivot sont faites d'une manière peut-être même inconsciente, mais quand on y réfléchit, pour repousser constamment ce qui a l'air de faire sens et le signifier en contresens. Ce sont les discussions rabbiniques et ce sont les discussions entre élèves qui sont des duellistes et des duettistes tête à tête qui se renvoient balle contre balle, etc., qui se contredisent l'ishma, c'est-à-dire au nom du ciel, pas pour se faire la guerre, et finalement eux-mêmes confrontés au professeur le lendemain, qui leur démontre que tout ce qu'ils ont appris est faux. Voilà. Donc on n'a qu'une fiabilité, c'est que tout est toujours dynamique. C'est le sujet justement du commencement de la Torah, d'après Rashi, « Achodesh Azelachem », qui veut dire « ça sera toujours, toujours, toujours un chidouche, une nouveauté ».
Dans les règles d'interprétation talmudique et midrashique, il y en a une que vous aimez particulièrement, Pierre-Henri Salfati, la gematria ou valeur numérique. J'ai toujours été heureux de savoir que le mot Talmud, Talmud en hébreu, possède entre autres la même valeur numérique, 480, que le mot shfanim, c'est-à-dire des lapins. C'est amusant, mais je crois que c'est profond. Qu'est-ce que cela vous inspire, Pierre-Henri Salfati?
D'abord, ça me fait rire. Et c'est très intéressant parce que toutes les leçons talmudiques doivent commencer par un rire. On en parlera peut-être après. En fait, shafan, shefanim, ne veut pas dire lapin, mais quelque chose qui ressemble à un lapin. Dans la Torah, on appelle shafan une gerboise. C'est de la famille. C'est-à-dire encore plus petit. Une chose minuscule qui saute partout. Donc, comment associer le pluriel de gerboise au Talmud par la valeur numérique? Alors, la valeur 480, quand on la divise en deux, ça donne 240. 240, qu'on multipliera ensuite par deux, c'est la gématria, la valeur numérique de Zo Bracha. Voici quelle est la bénédiction. Le Talmud en tant que texte est une bénédiction en soi, c'est-à-dire, on verra d'ailleurs que le Talmud commence justement par la bénédiction, puisque le premier traité choisi pour le commencer est Brachot, bénédiction, et ça s'adresse même aux petites bêtes, c'est-à-dire même à ces petites choses, qui sont les shefanim, et donc il y a deux brachot, celle du texte lui-même et celle de petites bêtes qui sont. Et dans le livre des Proverbes, il y a un petit texte qui va répondre à notre question. Merveilleux petit texte, très discret, qui dit ceci. Il existe sur terre quatre êtres tout petits et qui sont sages par excellence, c'est-à-dire plus sages que les singes. Et voilà le texte. Les fourmis, peuple sans force, font en été leurs provisions. On dirait du La Fontaine. Les shefanim, c'est-à-dire les gerboises, peuple sans puissance, qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, n'ont pas de roi et elles se mettent toutes en campagne par bande. Tout ceci raconte plein d'histoires. Et puis, l'araignée, tu peux l'attraper avec la main, mais elle se tient dans le palais des rois. Donc ici, on a une référence littéraire du roi Salomon qui aurait écrit les proverbes et qui nous cite les Gerboises parmi quatre petits peuples insignifiants, mais qui ont une surpuissance. Et en fait, on va se rendre compte à l'analyse que les fourmis, les gerboises, les sauterelles et l'araignée représentent les quatre mondes qui vont de la terre jusqu'au ciel, que sont le monde de l'action ici sur la terre, le monde de l'allusion, qui sont les mondes symboliques, si vous voulez, les mondes de l'allégorie, qui sont des mondes supérieurement intellectuellement spirituel, et puis le monde duquel tout est issu, le monde du roi, c'est-à-dire le monde de l'émanation.
Et donc, vous faites une lecture kabbaliste de ma question.
On est obligé.
Ce Talmud qui se déploie en 63 traités, qui sont regroupés en 6 parties différentes, appelées ordres, en hébreu sédarim. Dans votre ouvrage intitulé Le premier mot, qui vient de paraître aux éditions Fayard, vous expliquez l'importance du premier mot, du premier traité, du premier ordre du Talmud. Ce premier mot du Talmud se dit Me Matai, et signifie à partir de quand. C'est une question et une question sur le temps, et je trouve cela remarquable. Comment vous l'interprétez, Pierre-Henri Salfati ?
En fait, c'est vraiment remarquable. Vous avez tout à fait juste dit les choses. À savoir qu'on veut faire un lien entre la Torah dite écrite, c'est-à-dire le Rumash, le Pentateuque, et la Torah orale, c'est-à-dire ce qui oralement remplit les blancs que laisse le texte biblique exprès. Eh bien, en fait, on a voulu faire un parallèle. Il y a un parallèle, ce parallèle existe. Donc le commencement, puisqu'il faut bien un commencement, comme vous le dites pertinemment, il faut que les choses commencent, même si c'est une vue de l'esprit, le commencement, mais on va se donner cette aisance-là de commencer par un début, et on a choisi de commencer, contre toute attente, par le traité le moins talmudique qui soit, qui est le traité Brachot, qui est dit justement des bénédictions, comme le Beit de Bereshit, qui est l'initiale du mot bracha, dit le Midrash. Hein. C'est pas fait comme ça.
L'initiale du mot bénédiction.
Oui. Et donc, on commence par les bénédictions, et on va continuer par la réflexion, l'intellection. Et comment commence la bénédiction? Vous l'avez dit, le mot. C'est la première Mishnah du premier traité, commence par une référence au temps. Si on veut que Bereshit soit une référence au temps, elle l'est, puisque finalement on parle de 6 jours. Le chiffre 6 est considéré comme le temps, l'intériorité du temps. Quand vous parliez des 6 ordres, c'est-à-dire qu'ils ont ces 6 ordres un nom, Zraïm, le premier, les semences, jusqu'à Taharot, les puretés. Eh bien, les initiales de ces 6 ordres composent les mots Zman, le temps, Nakat. Et pris.
Ça rejoint ce que vous disiez la semaine dernière sur le fait que toute faute est une faute du temps qui a été consommé, c'est-à-dire que nous n'avons pas respecté le lento, le temps nécessaire pour que les choses se déploient. Il faut prendre son temps.
Absolument. Et vous voyez comment Dieu prendrait son temps pour celui qui y croit.
Alors vous voulez dire que prendre son
temps,
voilà, le Messie tarde, c'est-à-dire que il pourrait le faire venir rapidement, mais Dieu lui-même prend son temps.
C'est extraordinaire.
Voilà, il prend son temps. Il
Parce
semble
que le temps est son ami.
Oui.
Le temps doit être notre ami et pas notre ennemi.
C'est ça. C'est notre... Le temps est à la fois notre ami et l'ami de Dieu. Et vous voulez dire que puisque le premier mot de tout le Talmud, c'est une question, et une question sur le temps, c'est peut-être que la question, c'est ce qui nous permet de prendre le temps.
Exactement. Il y a 2 Talmuds. Un Talmud dit de Jérusalem, un Talmud dit de Babylone. Eh bien, on étudie dans les Yeshua le Talmud de Babylone. Pourquoi ? Parce qu'il prend son temps. Le Talmud de Jérusalem n'est pas étudiable en tant que méthodologie, puisqu'il vous annonce, il vous impose des vérités. Le Talmud de Babylone, c'est un questionnement continu. Or, ce qui est génial, c'est que le mal, la question quoi, c'est la valeur numérique de Adam, qui vaut 45. Or, si on dit Zman, la valeur du temps, et 97, hein, puisque nous parlions de Gématriot. C'est la même valeur numérique que Ben Adam. Celui qui construit le quoi. Celui qui construit le questionnement. Et comme disait Rabbi Yochanan Ben Zakkai, et comme on est tous amenés à le dire, nous apprenons davantage de nos élèves que de nos maîtres. c'est quoi l'élève? C'est celui qui pose la question, même inattendue, même sans réponse. Le maître va s'appliquer à en trouver une. Et curieusement, il peut la trouver. Alors, il y en a beaucoup qui l'inventent. Et même en l'inventant, ils se surprennent. Ils ne pensaient même pas que c'était une réponse existante. Et ça peut satisfaire l'élève. Donc, le temps, prendre son temps, c'est génial. On vous en donne énormément du temps. Vous vous habillez tous les matins, vous vous levez tous les matins, vous allez manger tous les matins. Alors, il y en a qui ont changé ce temps-là en autre chose. Les gens qui se rasent, vous vous rendez compte le temps qui passe à se raser, le nombre de livres que vous, Marc-Alain, vous allez écrire, ou que moi, je vais essayer d'écrire. C'est du temps récupéré sur un temps qui est peut-être accessoire. Donc, effectivement, le secret du Talmud, c'est de prendre... Dans les yeshivot, il faut le savoir peut-être de façon pratique, les gens n'étudient pas tout le Talmud. Ça prend page après page, ça prendrait 7 ans. Ne serait-ce que de le dire. Mais on va choisir quelques petits passages et prendre son temps. On peut passer, dans une yeshiva, 3 mois sur 10 lignes du Talmud.
Alors ce texte de la Mishnah est très surprenant parce que il pose la question à partir de quand lit-on la prière du soir qui s'appelle le Shema. On serait tenté d'entendre la réponse à partir de la sortie des 3 étoiles qui définit le début du soir. Et pourtant, le Talmud répond, la Mishnah répond, à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger la dîme, c'est-à-dire le pain qu'on va leur donner, parce que ne travaillant pas, ils dépendent de ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que la réponse, à partir de quand entend-on quelque chose de l'écoute, de la transcendance, c'est à partir du moment où ceux qui ont faim ont de quoi manger. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps dont on parle, à partir de quand, la question du temps, elle est liée à la dimension éthique de l'hospitalité ou de l'écoute du besoin d'autrui, Pierre-Henri Salfati.
Je me souviens, dans un de vos ouvrages, où vous expliquiez que inviter à manger s'enracine sur le mot osman, les azmin. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, le temps n'est pas autre chose que le manger. L'enfant qui sort du ventre de sa mère, il mange. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut que restituer par la parole que ce que l'on a fait rentrer par la matière, le manger. Le manger sert à parler. Et d'ailleurs, à la table, quand on invite, la tradition hébraïque nous dit qu'on n'a pas le droit de ne pas parler de Torah. Donc c'est plus important de parler de Torah par le fait que l'on mange que de ne pas parler de Torah et de ne faire que manger. Donc il y a un lien très intime entre le temps, la mangerie, si je puis dire, manger le monde... Et manger le monde correspond à précisément ne pouvoir restituer que ce que l'on a mangé du monde. On ne peut manger que ce qu'est le temps. Par exemple, quand on mange un fruit, on mange sans s'en rendre compte. Vous vous rendez compte, la germination d'une pomme, combien de temps ça prend? Qu'un arbre pousse, combien de temps ça prend? Que le marchand de fruits met... On mange tout ce temps-là très vite et encore plus beau que ça. C'est-à-dire que le temps contient tous les lieux du monde. Le Zman, ce qu'est la matière fabricatrice du monde, si on peut dire, contient toute la langue du monde, tous les discours du monde qui sont associés à le moindre fruit, la moindre légume, la moindre viande pour ceux qui mangent de la viande, le moindre poisson. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour chacun d'entre nous pour manger réellement une sardine si on devait aller la pêcher dans le fin fond de l'Atlantique? C'est du temps qui est là condensé. Et quand Einstein, par exemple, fait son travail de talmudiste sans s'en douter, c'est-à-dire il fait se correspondre la matière et l'énergie. L'énergie d'Hiroshima, c'est la transformation de 7 dixièmes de gramme d'uranium. 7 dixièmes de gramme d'uranium vont donner Hiroshima. Ce qui veut dire que la matière contient une énergie insoupçonné, même pour ceux qui ont mis au point ça, ils ont été stupéfaits. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire que le temps, comme si nous voulions dire matière réelle du monde, tout ce qu'il contient en énergie fait que, effectivement, tout n'est question que de temps. Et on peut le résumer comme ça.
Voilà la question. Deux ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est, lequel des deux va se laver quoi? Ben, forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Et pourquoi donc? Mais tu ne réfléchis pas à celui qui est sorti tout noir. Vois que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir? Alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver, pas celui qui est noir? Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Ben oui, d'accord, dans ce cas alors, qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir? Oui, oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question.
Non, le Talmud n'est pas qu'un livre de devinettes. Il est bien pire que ça. Ou bien mieux, question de point de vue.
Pierre-Henri Salfati, nous venons d'entendre la première minute de votre film, qui s'appelle le Talmud, qui est à la fois une devinette, une histoire drôle et un raisonnement logique précis, même si vous concluez par le fait que le Talmud ne soit pas une devinette. Pourquoi ce choix de commencement? Est-ce là un écho à cette pratique de Rabba, ce grand maître du Talmud, qui, selon le traité Shabbat, commençait tous ses enseignements par une mila de bdichuta, c'est-à-dire une histoire drôle? Quelle est pour vous l'importance de l'humour? Comment, dans vos recherches, dans le domaine de la pensée juive et dans votre cinéma, s'exprime cet humour aussi dans votre enseignement et dans votre écriture, Pierre-Henri Salfati?
Alors, effectivement, c'est essentiel. On dit à partir de Rabba, beaucoup d'autres rabbins pratiquaient ceci, à savoir un mot d'esprit pour pouvoir rentrer dans l'esprit. La blague inaugurale du cours, de la leçon, qui déjà enlève la pression et l'angoisse, s'appelle, dans la chassidut, Yehuda Tita, un petit coït, un petit orgasme. Quant à l'étude, quand on rentre après la blague, après l'humour, dans l'étude, tu vois, humour, amour, c'est, on dit Yehuda Ila, un grand Yehuda, un grand coït. Pourquoi? Parce que la blague, le mot d'esprit, d'un point de vue chassidique, est considéré comme mettre en union deux sujets qui apparemment n'ont pas l'air de cohabiter, et qui finalement, par leur cohabitation incongrue, font sortir la joie, c'est-à-dire produisent cette espèce d'orgasme de l'esprit qui rit, qui est au-delà de la raison. Et donc, c'est une mise à disposition, l'humour est considéré ici comme une mise à disposition tout à fait agréable et confortable pour rentrer dans des grands coïts. Hein, Yehuda, le grand Yehuda, la grande union, qui est effectivement, par exemple, quel rapport y a-t-il entre le poids de quelques grammes de farine et le sujet céleste de la présence de la Shrina? Des choses que personne ne comprend a priori. Mais pour rentrer dans ce genre de mise en rapport, il a fallu préparer ça. Et l'humour est une préparation. Et après, on peut finir encore par un autre mot d'esprit. Quand Freud écrit du mot d'esprit de l'inconscient, c'est quelque chose qui parle en lui depuis très longtemps. Il est quand même par atavisme, disait-il lui-même, par atavisme talmudique, qui avait que des juifs autour de lui. Et quand est arrivé Jung, il fait « Ah, enfin, un non-juif, enfin un vrai disciple. »
J'avais à ton bonheur, vous m'aviez à dire, et c'est moi qui te livre au bourreau. J'avais à ton bonheur, vous m'aviez à dire,
Hébron. Caruso, Rachel Camp du Seigneur, c'est le morceau que vous avez choisi, Pierre-Henri Salfati. Pourquoi ce choix ?
Alors, d'abord, j'ai très ému d'entendre cette musique. Ce choix, parce que je travaille en ce moment sur l'histoire du juif errant. Je suis en train de faire un film pour Arte sur la merveilleuse histoire du juif errant. C'est une histoire à tiroir inouï. Et on vient d'entendre Caruso chanter un extrait de La Juive de Halévy, inspiré par Eugène Sue, qui va écrire le roman le plus vendu du 19e siècle, qui est Le Juif errant. Or, notre ami Eugène Sue est un auteur populaire, un feuilletoniste, il travaillerait très bien pour Netflix aujourd'hui, et il a donc fait mieux que Victor Hugo, mieux que Karl Marx, puisque Le Juif errant sort 3 ans avant le manifeste du Parti communiste de Marx et avant Les Misérables, et il a fait du Juif errant, il a transformé ce personnage en héros social, en héros ami du peuple, défenseur des petites gens, contre les grandes et contre surtout les injustes, si vous voulez. Et bien voilà, donc merci de ce rappel. Et donc Le Juif errant, donc je raconte bien avant Eugène Sue, puisque Eugène Sue, on est au 19e siècle, mais dès le 7e siècle, et peut-être même avec Saint Augustin, où les Juifs sont damnés à errer sur la terre alors qu'ils ne devraient plus être là, il est obligé d'expliquer à ses amis théologiens, bah, Dieu a quand même voulu qu'ils y soient pour qu'on voit la grandeur réelle de la théologie chrétienne. Donc, en fait, l'errance juive, elle est effectivement, c'est presque un pléonasme de dire un juif errant. C'est-à-dire que si le juif est aujourd'hui sédentaire, il erre dans ses livres. Il est de livre en livre, il est dans l'errance et il s'y perd. Et c'est fait pour ça. Ne surtout pas demander son chemin, disait Rabbi Nachman de Breslav, à quelqu'un qui le connaît. Tu n'auras pas la chance de te perdre.
Citation magnifique, bien qu'apocryphe. C'est très important ce que vous dites, parce que vous revenez en fait à l'idée du Talmud. On avait posé la question, qu'est-ce que le Talmud ? En fait, le Talmud est si vaste, il est souvent comparé à un océan. Et dans un océan, on se perd et on s'égare souvent. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut se poser la question, dans cette errance que vous dites de livre en livre, pour vous, par quoi et par où commencer l'étude du Talmud ? On a évoqué le premier mot, le Mehematai, mais peut-être que dans votre expérience d'enseignant, vous avez envie de commencer le Talmud par un autre endroit, Pierre-Henri Salfati.
C'est exact. La Torah elle-même, quelqu'un qui l'ouvre pour la première fois, son regard tombe sur un mot qui n'est pas forcément le début de la Genèse. Pour lui, c'est un commencement. Et dans les yeshivot, c'est très intéressant, l'endroit professionnel, si je puis dire, où on a le Talmud, on ne commence pas par le commencement. Et d'ailleurs, les Juifs eux-mêmes, qui chaque Shabbat lisent la Torah, ne commencent pas par Bereshit. Et le Talmud est pareil, c'est-à-dire qu'on va choisir n'importe quel endroit, on va dire comme ça. En général, il y a 5 traités du Talmud qu'on étudie dans les Yeshivot, et 5 sujets particuliers dans ces traités-là, parce qu'on veut apprendre la méthode. Donc en fait, on peut commencer le Talmud n'importe où, parce qu'on est dans l'océan. Est-ce qu'il y a un commencement de la mer ? Est-ce que la mer commence au milieu de la mer ? Au bord de la mer ? Quel est des deux bords, le commencement ? Il n'y a pas de commencement, comme on l'a dit dans Bereshit. Donc le Talmud, pourquoi peut s'apprendre n'importe où ? Parce que, comme on disait précédemment, la dernière fois, parce que tout nous ramènera à la même chose.
C'est quoi cette même chose ?
C'est le concept du génie de ce qui aurait fait le monde, pour ceux qui pensent à ça, de ce qui précède le monde. Ce génie hors du monde qui pourtant pénètre le monde. Cette chose qui fait que nous ne sommes pour rien dans notre naissance, nous serons pour rien dans notre disparition d'ici. Nous ne savons pas où nous irons, nous ne savions pas que nous allions venir, mais nous sommes confiants, plus ou moins, en cette chose dont le lâcher-prise nous permet d'en avoir une conscience réel, et c'est pas simplement un baratin spirituel, c'est-à-dire cette surpuissance, c'est cette chose-là vers laquelle on tend. Et notamment par le Talmud, on peut intellectuellement, vous avez affaire, vous le savez mieux que moi, à des surpuissants intellectuels, des gens qui sont armés du Talmud n'ont plus peur de personne intellectuellement. Tous ces gens ne savent pas où ils vont, mais ils y vont quand même, l'art de se perdre, parce que justement, imaginez quelqu'un qui croit à un Dieu qu'il comprendrait. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas croire, si on est croyant, en Dieu qu'on comprend. Ce n'est déjà plus un Dieu, si vous voulez. Donc, par contre, ce que je comprends, la seule chose qui peut rattraper tout ce qui nous échappe, c'est cette éthique, cette morale, cette manière de se discipliner pour s'endormir moins bête qu'on s'est endormi la veille.
Alors, vous venez de parler du film que vous êtes en train de faire. J'aimerais revenir sur une remarque que j'ai faite lors de la première émission, sur ce que j'ai appelé vos deux casquettes, celle de cinéaste et celle du penseur et d'exégète des textes de la tradition juive. Comment vous tissez ces deux passions, Pierre-Henri Salfati ?
C'est vrai, ce sont deux activités pour moi fondatrices et fondamentales. Quand on vit dans le ghetto juif, c'est-à-dire dans le monde clos, comme dirait Coiré, de l'orthodoxie, le monde autour n'existe pas. Et d'une certaine façon, c'est un peu scandaleux. Il n'y a pas de raison que l'on ne partage pas. Vous évoquiez le partage tout à l'heure, comme le temps même. Cette nourriture, et n'oublions pas que Zman sont les lettres de Mazon, manger.
La nourriture, oui.
Le cinéma, pour moi, une forme de cinéma, cette imagerie est inspirée de la Gemara dans le Talmud Megillah. C'est curieux que le traité Megillah s'occupe de la fête de Pourim, alors qu'il n'y a pas de traité pour Hanouka, par exemple. Eh bien, dans Megillah Esther, qui mot à mot veut dire Megillah, Lachon Gilou, dévoilé, Esther, Lachon Stira, caché, dévoiler ce qui est caché. Et la Gemara, Megillah, se termine en disant ceci. Dans les temps futurs, la Torah sortira des théâtres. Et les rabbins se sont questionnés, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle sort des théâtres? On n'a pas le droit d'aller au théâtre. C'est-à-dire que les acteurs qui sont au théâtre, ils vont sortir des bouts de Torah sans l'avoir apprise. Ou alors, on ira chercher des gens de Torah pour se mettre sur des scènes et raconter le monde. Mais ça veut dire les deux. Et le plus grand théâtre au monde, théâtre, je le rappelle, vient du mot théos. C'était un lieu sacré, le théâtre grec ancien.
C'est l'endroit d'où l'on voit, mais c'est effectivement, il y a quelque chose du divin dans le théâtre, étymologiquement, philologiquement.
Philologiquement, ouais. Exactement, comme dans le théorème, comme dans la théorie, ce qui a l'air d'être tout à fait à l'encontre de Dieu, si vous voulez. Un théorème, c'est quelque chose de raisonnable, mais c'est incrusté dans Théos. Eh bien, la Megillah, moi, à l'époque, quand j'étudiais ce traité-là, j'étais très surpris aussi. Et en fait, c'est ça, dévoiler ce qui est caché. Et le cinéma des frères Lumière, quand Dieu dit que la lumière soit, bien les frères Lumière furent, c'est-à-dire c'est peut-être mentir 24 fois par seconde ou dire la vérité 24 fois par seconde, ça me semble une obligation. C'est-à-dire, on va pas rester dans son ghetto, on va pas rester avec le cœur de la centrale, le plutonium là, dans les mains, et puis s'irradier sans bouger. On doit partager. Ça va de soi, le chassidisme. Tu dois partager ce que tu as. Et pour moi, le cinéma, le fait de faire des films, était cette idée du partage. Et donc, c'est une continuum de l'étude. Et alors après, les sujets de films, oui, moi j'ai fait des films, on va dire, judéo-juifs, mais pas que.
Non, moi je vous ai connu avec Tolérance,
oui,
qui était un film pas du tout judéo-juif, en tout cas j'en sais rien d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que vous considérez presque, pour vous, le cinéma c'est presque un commandement, une mitzvah, cette manière justement de rencontrer, d'inviter la Hazmin, d'inviter l'autre, une éthique du partage, de l'hospitalité et la production d'un temps tel qu'on l'a vu tout à l'heure.
C'est exactement ça, vous l'avez très bien, et merci d'ailleurs de me le dire à moi comme ça, parce que ça me révèle aussi la chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus vite par l'image que par le livre. Mais aucun film n'a jamais changé le monde. Par contre, un film peut inciter à aller voir ailleurs, c'est-à-dire dans les livres, et ça, des livres qui ont changé le monde, il y en a eu. Donc c'est une prélecture, c'est un prélude, c'est comme un commencement, qui n'est pas un commencement, qui n'est pas un commencement, mais c'est une indication, l'œil a l'air d'aller plus vite que la bouche, et donc le cinéma c'est aussi ça. Regardez d'ailleurs, c'est hallucinant, comment les gens ont tous envie d'être des stars de cinéma, et comment ces gens sur un tapis rouge, avec leurs jolies robes quand c'est des femmes, et leur smoking quand c'est des hommes, sont tellement heureux qu'on dirait que c'est l'apothéose de ce qu'un être humain peut être et espérer du monde. Alors que c'est de la rigolade, si vous voulez. Par contre, les films peuvent effectivement faire avancer ailleurs que dans les films.
C'est-à-dire dans les livres.
Dans les livres. Mmh. C'est-à-dire le film demande un texte avant, un scénario c'est compliqué, et doivent amener à lire. Quand je fais le film sur Martine Buber, j'aimerais que les gens aillent lire Martine Buber. Par exemple, quand je fais le film sur Yerushalayim, j'ai passé un an dans la vieille ville avec 12 caméramans, c'est pour que les gens réalisent ce qu'est le sujet nouveau du monde. Cette ville où aujourd'hui les prêtres sont des guides touristiques, où les pèlerins sont des touristes, et où Dieu n'a l'air que d'être les 6000 caméras de surveillance jour après jour. Et j'essaye de montrer qu'il y a quand même autre chose.
Merci Pierre-Henri Salfati pour ces 2 semaines de conversations joyeuses, stimulantes, ludiques, créatives et pleines d'humour autour de cette question du premier mot de la Bible, de ce Bereshit, autour du premier mot du Talmud, ce Mehemataï, autour aussi de votre passion du Talmud et de l'interprétation et du cinéma. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, Le premier mot, sous-titré Au commencement, histoire d'un contresens. Merci encore Pierre-Henri Salfati.
Marc Alain, merci à vous de cette invitation.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Benjamin Vignal, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques, filmographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.